Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec, comme chaque lundi, le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour mon ami.
On va commencer avec une question de philosophie en lien avec la décision du Conseil d'État tombée mardi dernier. Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais la résumer. Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État, estimant que l'autorité de régulation des médias contrôlait mal le respect du pluralisme dans les médias. RSF songeait surtout à la chaîne d'infos et d'opinion CNews. Résultat des courses, le Conseil d'État a rendu une décision qui pourrait obliger l'ARCOM à contrôler le pluralisme autrement, en mesurant non seulement le temps de parole des politiques, mais également en mesurant celui des commentateurs, experts, analystes, chroniqueurs, animateurs, invités, etc., etc., dans les studios et sur les plateaux de télévision. Bref, un casse-tête technique et surtout une décision qui permet à CNews de se faire le porte-parole de la liberté d'expression menacée dans ce pays. D'où ma question de philosophie avec vous, Luc Ferry, question de dissertation au bac philo. La démocratie peut-elle se résumer à n'être que l'expression de la voix du peuple ?
Oui, c'est une très belle question, très classique évidemment. Et il faut rappeler une chose qui est essentielle, c'est que la démocratie, elle a deux piliers, pas un seul. Il n'y a pas que la voix du peuple qui peut s'exprimer directement par la démocratie directe, par exemple par des référendums, ou indirectement par le biais du Parlement.
Ou des élections.
Bah, Parlement, c'est élu en principe par les élections, donc par le biais du Parlement ou par le biais du référendum, de la démocratie directe ou de la démocratie représentative, c'est évidemment l'élément essentiel de toute démocratie, mais on peut aussi démocratiquement voter pour Hitler, on peut démocratiquement remettre en place la peine de mort, démocratiquement être raciste si on a une majorité qui est raciste. Et donc, le deuxième pilier est tout aussi important que le premier, c'est l'état de droit. Voilà. Et donc, il faut les deux piliers. Il faut d'un côté la voix du peuple, mais de l'autre côté, la voix du peuple doit être encadrée par l'état de droit. Et chez nous, l'état de droit, il est représenté par deux conseils essentiellement. Le conseil constitutionnel, qui comprend, je le rappelle, le préambule de la Constitution, c'est les déclarations des droits de l'homme, y compris celle de 46, sur le droit au travail. Et il y a donc ça dans le paquet constitutionnel qui guide le Conseil constitutionnel, et puis il y a évidemment le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. C'est les deux piliers de l'État de droit. Et donc, ces piliers-là, État de droit d'un côté, vox populi de l'autre, sont essentiels à la démocratie. Et donc, je suis très inquiet quand le Conseil constitutionnel ou quand le Conseil d'État se décrédibilise. C'est terrifiant.
Vous estimez qu'il s'est décrédibilisé en réclamant à l'ARCOM de mesurer autrement l'état du pluralisme dans les chaînes.
C'est absurde, parce qu'à la fois c'est une mesure totalitaire, mais surtout, c'est ça qui est le plus grave.
Du calme.
Non, c'est vraiment une mesure totalitaire, parce que c'est une mesure totalitaire en ce sens que ça obligerait, si on voulait vraiment appliquer la loi, ça obligerait à sonder les reins et les cœurs et de savoir pour qui on vote à chaque fois. Vos invités, vous avez Alain Fischer tout à l'heure, vous allez lui demander pour qui va voter.
Ah, j'aurais dû lui demander. Zut.
Voilà. Et moi, il m'est arrivé de voter à gauche, au centre, à droite. J'ai toujours dit que j'étais gaulliste, mais il peut arriver d'être en désaccord. Dieu sait que c'est le cas aujourd'hui avec les LR. Bon, personne ne peut savoir. Et personne ne doit savoir pourquoi il y a un isoloir. Et en plus, c'est une mesure totalitaire parce qu'elle est juridiquement inapplicable. Vous ne pouvez pas juridiquement appliquer les choses. Vous pouvez vous pouvez calculer le temps de parole des gens qui sont encartés, c'est-à-dire les politiques qui sont encartés, ça c'est tout à fait légitime, mais les invités, vous ne pouvez pas, c'est impossible de savoir pour qui quelqu'un va voter.
Luc Ferry, dans la démarche de Reporters sans frontières,
donc on se ridiculise.
Dans la démarche de Reporters sans frontières, il y avait cette conviction portée par ses responsables, quand ils ont saisi le Conseil d'État, c'était que CNews ne remplissait pas son cahier des charges. Est-ce que pour vous, CNews est une chaîne d'opinion ou une chaîne d'information?
Alors, il faut bien rappeler une chose avant, je vais vous répondre évidemment, mais avant, il faut rappeler que le Conseil d'État demande non seulement qu'on sonde les reins et les cœurs des invités sur les chaînes, mais aussi qu'on aille au-delà des émissions d'information et qu'on regarde ce qui se passe politiquement dans les émissions qui ne sont pas des émissions d'information. Donc il y a une double extension du flicage, si je puis dire, des personnes qui sont invitées sur des plateaux de radio ou de télévision. Donc c'est vraiment absurde. Enfin, c'est là, le Conseil d'État se ridicule. Il se décrédibilise. J'en ai parlé avec des membres du Conseil d'État qui sont consternés. Bon, je reviens à votre question. CNews a toujours fait très attention, Pascal Praud en particulier, d'avoir toujours sur son plateau des gens de gauche. Évidemment que c'est une chaîne qui, globalement, n'est pas de gauche. Quand vous achetez le Figaro, vous achetez pas Libération. Quand vous achetez Libération, vous achetez pas le Figaro. Quand vous achetez le Valeurs Actuelles, vous achetez pas l'Obs. Bon, tout le monde le sait. Mais en même temps, évidemment, les journalistes de CNews et d'Europe 1 font très attention de comptabiliser le nombre de gens de gauche, le nombre de gens de droite qu'ils invitent. Même si la ligne éditoriale, elle est évidemment de droite. Personne ne peut le nier. Mais c'est bien qu'il y ait, si vous voulez, un pluralisme, ce qu'on appelle le pluralisme extérieur. C'est bien qu'il y ait des journaux de droite et des journaux de gauche. Quand vous achetez le JDD, vous n'achetez pas Libé, mais tout le monde le sait. À moins d'avoir un cuit de bulot, tout le monde sait que quand on achète le JDD ou Valeurs Actuelles, globalement, oui, il y aura peut-être un entretien avec Manuel Valls dedans ou avec tel ou tel homme de gauche, mais la ligne éditoriale est quand même de droite. Mais quand j'achète Libé, je sais que la ligne éditoriale de Libé, elle est de gauche. Et c'est pareil dans les médias audiovisuels. Ici, à Radio Classique, c'est pas identifiable. On peut pas savoir. Moi, je sais pas pour qui vous votez, David. J'en sais rien.
Non, mais strictement façon, rien. À chaque fois, je me plante. Voilà. Donc, faudrait que je prenne des cours voilà. de vote.
Mais et pareil pour le Conseil constitutionnel. Je considère. Franz-Olivier Gisbert l'avait dit la semaine dernière chez vous, en discutant avec vous. L'article 45 de la Constitution permettait tout à fait aux amendements insérés dans la loi immigration par les LR d'être reconnus comme valides par le Conseil constitutionnel dans la mesure où ils avaient un lien, en vérité, tout à fait direct avec, et en tout cas au minimum indirect, avec la loi sur l'immigration.
Luc Ferry, Esprit Libre du lundi, j'ai quand même le sentiment, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord, que RSF et le Conseil d'État ont offert à CNews une campagne de communication extraordinaire.
Évidemment.
Quel bonheur.
Mais évidemment, parce que du coup, ça leur a permis de se faire les chantres, mais à juste titre. Comment voulez-vous qu'ils n'en profitent pas de la liberté d'expression? Et c'est vrai qu'ils ne cessent évidemment chaque matin de dire, mais regardez ce qui se passe sur France Inter ou France Info. Voilà, c'est ce qui est vrai, il faut être honnête. Donc, mais c'est pareil, moi j'écoute France Info très souvent, j'écoute France Inter très souvent, mais je les écoute parce que c'est comme il m'arrive d'acheter Libération, enfin de moins en moins, mais parce que ça m'intéresse de savoir ce que pense la gauche. Mais je sais que si j'écoute France Inter ou France Info, bah, je vais écouter une chaîne de gauche.
Ouais, bon, faites attention quand même de bien écouter Radio Classique.
Hein. Ah bah écoutez, chaque matin, mon ami, je vous écoute religieusement.
Parlons un peu politique. Que vous inspire le recrutement par le Rassemblement National de l'ex-patron de Frontex, Fabrice Leggeri? Il a été 6 ans patron de Frontex et puis il a démissionné.
Oui. Et nommé par Cazeneuve,
on dirait. Un techno, un énarque, oui. Normalien. Oui. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du Rassemblement National aujourd'hui?
Bah, ça dit d'abord que les barrières tombent, hein, le fameux plafond de verre a explosé, donc c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même, je crois, quasiment la première fois que le Rassemblement National parvient à recruter un fonctionnaire expert de très très haut niveau, parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et donc, évidemment, c'est très important pour le Rassemblement National, parce que cet homme qui, d'ailleurs, avait été, en tout cas, la nomination avait été validée par Cazeneuve, donc par un homme de gauche. Ça ne veut pas dire que Cazeneuve l'avait choisi, mais en tout cas, il n'avait pas empêché de se présenter, ce qui est tout de même un signe important. Et qu'un homme qui a été validé par Cazeneuve puisse être recruté par le Rassemblement National, c'est évidemment une formidable prise de guerre pour le Rassemblement National. Surtout que c'est un vrai expert, c'est quelqu'un qui, encore une fois, sait comme nul autre comment ça se passe au niveau européen. Et il s'est battu, il le dit très bien, il s'est battu contre les associations de défense, disons les associations immigrationnistes, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'est battu bec et ongle parce qu'il voulait que, par exemple, les OQTF soient appliquées ou l'équivalent au niveau européen soit appliqué. Bon, et donc c'est quelqu'un qui a été profondément déçu par la politique européenne migratoire. Voilà. Et c'est évidemment pour le Rassemblement National quelque chose de très important. Parce que là, ils ont recruté quelqu'un qui n'est pas un idéologue.
Quelque chose m'amuse, moi, dans cette affaire, si je peux utiliser le terme amusé, c'est que depuis des dizaines d'années, depuis la création de l'ENA, pour ne citer que l'ENA, des tripatouillés d'énarques travaillent pour des partis politiques à leurs heures perdues et personne n'en parle, alors qu'ils sont fonctionnaires et d'actifs. Oui. Et là, un fonctionnaire, je crois, à la retraite, rejoint le Rassemblement National et ça fait quand même l'actu politique du week-end. C'est pas anodin, hein, mais je note.
Oui, c'est sûr, c'est certain que s'il avait rejoint le Parti Socialiste, personne personne n'en dirait un mot, oui. C'est tout à fait juste. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est qu'une barrière qui tombe. Et la normalisation du Rassemblement National est quelque chose qui est, c'est à peu près la seule chose qui soit en marche dans le pays aujourd'hui.
Luc, il y a un autre débat qui est intéressant entre Gabriel Attal et le président de la République, qui a donné une interview aujourd'hui à l'Humanité. C'est la notion d'arc républicain. Pour Gabriel Attal, et dans l'arc républicain, tous les élus qui siègent à l'Assemblée nationale et qui s'y tiennent à peu près correctement.
Il a raison.
Et pour le président de la République, non, c'est plutôt une question de valeur. C'est-à-dire qu'on peut siéger à l'Assemblée nationale, on peut être élu selon les processus républicains, on peut se plier, et c'est le cas du Rassemblement national, parfois un peu moins de la France insoumise, à la discipline républicaine telle que l'exige le règlement de l'Assemblée nationale, sans être dans l'arc républicain. Là encore, c'est presque une question de philosophie politique.
Non, mais là, oui, enfin, c'est aussi une question assez comique de tactique politique, plus que de philosophie politique. Est-ce que donner un entretien à l'Humanité comme si l'Humanité, c'était grandiose et c'était mille fois mieux que le Rassembleur National, c'est quand même d'un comique achevé.
C'est un entretien donné pour la préparation de l'hommage et l'entrée de Manoukian au Panthéon.
Donc, mais c'est l'occasion de dire que...
L'Humanité est un espace assez légitime, pour le coup.
Oui, pour moi, non, mais enfin, on peut en discuter. Mais en tout cas, pas plus légitime que
le Figaro.
En tout cas, que Valeurs Actuelles. Mm-hmm. Certainement pas plus, à mon avis, beaucoup moins de mon point de vue à moi, mais enfin, on peut en discuter. Je pense que le communisme est responsable, en gros, de 150 millions de morts dans le monde. C'est pas l'endroit où j'irai passer mes vacances intellectuellement, si je puis dire. Voilà. Maintenant, il s'agit toujours pour Emmanuel Macron de se faire pardonner le coup d'avant. Il a dit, faut pas humilier Poutine, alors on va recevoir Zelensky en disant Poutine est une crapule, c'est une... Voilà, très bien. Et donc, c'est toujours le en même temps. Maintenant, revenons au fond du problème.
L'arc républicain. En être ou ne pas en être.
Mais enfin, une fois qu'un parti est représenté à l'Assemblée nationale, par définition même, il fait partie de l'arc républicain. Moi, revenons au problème de tout à l'heure. Je suis scandalisé, je l'avais dit déjà au comité Balladur dont j'étais un des membres, je suis scandalisé que le Conseil constitutionnel puisse être présidé par des hommes politiques aussi engagés. Voilà, je trouve que c'est pas normal. Et je trouve qu'en revanche, au Conseil constitutionnel, il doit y avoir des politiques, parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, ils savent ce que c'est que la politique, c'est important qu'il y ait des politiques au Conseil constitutionnel. Mais justement, il devrait y avoir un politique par parti représenté à l'Assemblée nationale, mais que le président soit un grand magistrat, un grand professeur de droit, enfin que sais-je. Mais et ça peut pas être Laurent Fabius, comme ça peut pas être Alain Juppé, c'est pas possible. Voilà, c'est parce que ça discrédite a priori toute décision du Conseil constitutionnel, même si elle était objective. Hein. Je fais pas un procès à Fabius, c'est pas ça. Mais je dis même si la décision était parfaitement objective, à partir du moment où c'est un Laurent Fabius ou l'équivalent de droite qui préside le Conseil, plus personne n'y croit. Voilà. Donc il faudrait que les politiques soient représentées, mais justement, et je reviens à l'arc républicain, il faudrait que ce soit un représentant de chaque parti politique représenté à l'Assemblée. C'est ça qui devrait être...
Est-ce que pour vous, la France Insoumise et le Rassemblement National sont dans cet arc républicain ?
Évidemment, bien sûr que oui. Et je n'ai cessé de dire que ni Mélenchon... Dieu sait que mon désaccord avec Mélenchon est connu. Bon, Dieu sait que Mélenchon, j'ai pas de sympathie pour son orientation politique. Bon, et même c'est plus que de l'antipathie, je le combats. Mais je considère ça n'est pas un extrémiste, ça n'est pas un bolchevique au sens où c'est pas l'extrême gauche de 1917, c'est pas vrai, il veut pas prendre l'Élysée par les armes, il veut pas, contrairement à Poutine, il veut pas tuer les opposants. Bon, et Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite au sens où on l'était dans les années 30. Elle n'est pas hitlérienne, voilà. Elle n'est pas vichyste, c'est pas vrai. Madame Borne a dit une bêtise, bon. Et donc, ils font partie de l'arc républicain. On peut les combattre, on doit, à mes yeux, combattre un certain nombre de choses chez eux, mais on doit respecter l'électeur qui vote pour eux. Enfin, ça fait partie, évidemment, de l'arc. Sinon, on n'est plus un démocrate. Et donc, si on renvoie LFI et si on renvoie le Rassemblement National hors du champ républicain, on n'est pas un républicain, on n'est pas un démocrate. Et donc, je considère que cet entretien accordé à l'Humanité, il est quand même, à mes yeux, pardon de le dire, il est déshonorant. On doit être démocrate, on doit être républicain. Marine Le Pen et Mélenchon font partie de l'arc républicain. Là-dessus, Gabriel Attal a raison, contre son président.
Vous qui savez presque tout, est-ce que vous savez qui va conduire la tête de liste macroniste aux européennes ?
Non, on ne sait pas.
Est-ce que c'est bien comme stratégie d'attendre pour la nommer ou est-ce que le président et son camp prennent des risques?
Moi, je pense qu'ils prennent des risques parce que les autres sont là et qu'en vérité, la bataille est déjà commencée. Glucksmann est là, Bellamy est là, Bardella est là et donc je pense que ça indique toujours ce en même temps, cet atermoiement macronien qui pèse sur la politique. Cela dit, lui, le président Macron, il risque plus rien puisqu'il ne sera pas candidat aux élections au prochain tour. Donc, il peut se permettre de faire ça s'il veut, mais pour son parti, c'est catastrophique.
Le suspense reste entier sur cette tête de liste et le suspense, il est aussi dans cette musique grave et tendre de Bernard Herrmann à laquelle Carole Beffa, qui collabore chaque semaine ou presque à l'émission de Guillaume Durand, Bande à part le dimanche. Carole Beffa qui...
Que j'aime beaucoup, hein, je tiens à le dire.
Ben nous aussi, on l'adore. Grand musicien, grand compositeur, grand improvisateur, professeur de musique qui publie un ouvrage sur Bernard Herrmann, compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock. Vous entendez la musique de Vertigo. Il publie chez Actes Sud une biographie de Bernard Herrmann qu'on va écouter un petit peu. Luc, sur la pointe des pieds, à la semaine prochaine. Radio Classique, 8h57.